I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, c'est Zoé de Louis. Dans Émotion, on aime aborder tous les sujets qui vous touchent, dont un qui revient souvent est la confiance en soi. Saviez-vous que l'acné arrive en tête des complexes physiques chez les femmes comme chez les hommes? Et l'acné à l'âge adulte peut saper toute confiance en soi. Si vous êtes dans ce cas, je voudrais vous parler du sérum acide salicylique anti-imperfection de Caudalie, notre sponsor en ce moment. Ce sérum de la gamme Vino Pure, c'est la solution naturelle des peaux à tendance acnéique qui améliore la qualité de votre peau avec deux fois moins de boutons dès une semaine. Le sérum combine un trio d'actifs puissants, naturellement efficaces pour lutter contre les imperfections. Acide salicylique, niacinamide et polyphénol. Retrouvez une belle peau pour vous lancer en toute confiance dans tous vos prochains projets. Merci à Caudalie pour leur soutien et bonne écoute.
Louis. Dans son livre « Au monde », Chantal Birman raconte son quotidien de sage-femme, son engagement militant et les centaines de rencontres humaines qui ont jalonné l'exercice de son métier. Dans le chapitre dédié à la consultation, elle écrit « Chaque femme arrive au moment de son accouchement avec sa propre histoire. Ce dernier point est important. C'est parce que son histoire aura une influence sur le déroulement de son accouchement que nous devons, en consultation, y prêter une attention particulière. » Cette attention à l'autre, cette écoute de la patiente, c'est un des grands combats de Chantal Birman, depuis le début de sa carrière. Et s'il y a combat, c'est que malheureusement, ce n'est pas une façon de penser particulièrement courante dans le corps médical. Elle poursuit avec cette métaphore limpide. Finalement, tout se passe un peu comme à un examen, où leur corps serait la copie qu'elles nous donnent à lire, et l'oral, l'échange que nous aurons. La distinction entre corps et esprit est omniprésente dans notre culture et nos sociétés ont tendance à accorder davantage de crédit aux faits physiquement visibles plutôt qu'aux ressentis, aux émotions. Pour de nombreuses personnes, y compris dans le monde médical, une plaie externe qui saigne est beaucoup plus parlante que l'expression d'une douleur interne. D'ailleurs, comment la mesurer? Comment être sûr, sans signe apparent physique, que la douleur exprimée est bien réelle? C'est un peu comme si la douleur posait un problème de crédibilité. D'ailleurs, Chantal Birman lui préfère le terme de souffrance, davantage prise au sérieux. Dans cet épisode, la journaliste Léna Coutreau enquête sur les liens entre douleur et émotion et la façon dont sont traitées les douleurs que l'on dit invisibles dans le monde médical. Je suis Brune Bottero, bienvenue dans Émotion.
Octobre 2018, je commence à ressentir des symptômes bizarres. Je pleure tout le temps, je m'endors à 17h alors que je n'ai pas pour habitude de faire la sieste. J'ai de plus en plus de mal à me lever le matin. Puis je deviens intolérante au bruit, à la lumière, aux températures froides, aux températures chaudes. Je me dis que je vais faire un bilan sanguin, mais je laisse traîner quelques mois. Pendant la canicule de juin 2019, je fais plusieurs malaises et consulte enfin mon médecin, qui ne me prescrit que du fer, me conseille de manger des sardines et d'aller randonner en montagne. Je suis un peu frustrée, mais bon, c'est bientôt l'été, j'obéis, je mange des sardines et je vais marcher dans le Vercors. Un après-midi, en plein cagnard sur un sommet, aucun arbre en vue, je fais une attaque de panique. En septembre, je retourne voir mon médecin et l'oblige à me prescrire un bilan sanguin complet. Résultat, j'ai une hypothyroïdie d'Hashimoto, une maladie auto-immune de la thyroïde qui se caractérise notamment par une fatigue chronique, un yo-yo émotionnel et une hypersensibilité aux températures. À l'époque, mon père emploie la romantique métaphore de limace anesthésiée sur canapé pour me décrire. En réalité, je ne mesure pas ma chance. On appelle errance diagnostique la période allant de l'apparition des premiers symptômes jusqu'à la date à laquelle un diagnostic précis est posé. La mienne n'a pas duré plus d'un an. À titre de comparaison, selon une étude de l'Alliance Maladies Rares, une association de patients, l'errance diagnostique moyenne des patients atteints de maladies rares est de 9 ans. En 9 ans, on peut écumer les cabinets de spécialistes, espérer, se réjouir, désespérer, être en colère, se résigner, espérer encore, cultiver l'autodérision, désespérer à nouveau. Dans son livre blanc de la douleur, publié en 2017, la Société française d'études et de traitement de la douleur annonce que 12 millions de Français souffrent de douleurs chroniques, c'est-à-dire une douleur qui dure de manière permanente ou intermittente depuis plus de 3 mois, avec ou sans explication. Mais la douleur chronique n'est reconnue que depuis 2019 comme une maladie par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Et c'est important de reconnaître la douleur d'autrui en tant que telle. Car sans reconnaissance officielle, et tant qu'aucun examen médical n'en révèle l'origine biologique, la douleur est facilement sous-estimée, niée, voire moquée. L'étiquette « chochotte » est vite apposée par un entourage incrédule, voire par soi-même. Le problème, c'est que l'on considère rarement la douleur comme un problème sérieux, lorsque tous les examens prouvent que tout va bien. Et alors, elle perdure, parfois des années, parfois toute une vie. Mais qu'éprouve-t-on lorsque personne ne croit à sa douleur? Pourquoi dit-on « c'est dans ta tête » à quelqu'un qui souffre dans son corps? Et cette petite phrase, les femmes l'entendent-elles davantage que les hommes? Enfin, notre état émotionnel a-t-il un impact sur notre perception de la douleur? Et peut-on en arriver à douter de sa propre douleur?
J'ai mes règles assez tard, vers 17 ans. Je sens les contractions de l'utérus qui veut décrocher l'endomètre pour déclencher les règles. C'est pas des douleurs qui m'handicapent, c'est pas permanent, c'est quelques crises de douleur pendant 3-4 jours.
La personne qui parle, c'est Léa, 31 ans. En tant qu'adolescente, la douleur qu'elle ressent, c'est plutôt un truc cool. C'est même un état qui lui donne de la valeur.
Donc, je commence à avoir mes premières douleurs au lycée, en première terminale. Et c'est un moment où je suis avec ma meilleure amie. Elle aussi, elle a des douleurs, donc on s'en parle. On va souvent déjeuner chez elle le midi. Et puis, on est dans la cuisine, on est en train de préparer le déjeuner. Je lui dis que j'ai vu un médecin qui m'a donné des médicaments parce que j'avais mal pendant les règles. Elle me dit qu'elle aussi, que ce médicament, donc l'Antadis, qui est un antidouleur très prescrit pour les douleurs de règles, elle aussi, elle le connaît, qu'elle en prend depuis longtemps. Et elle ouvre le placard et elle me montre tous les médicaments qu'elle a. Et à ce moment-là, dans ma tête, c'est un peu une preuve de force de réussir à subir des douleurs comme ça. Et d'avoir à prendre des médicaments aussi forts et que ça n'ait même pas beaucoup d'effet, c'est quelque part bizarrement valorisant.
Léa me raconte qu'elle et son amie en étaient quasiment à faire des concours pour savoir qui était capable de supporter la douleur la plus forte, tout en serrant les dents pour que ça ne se voit pas. Si en revanche, une autre jeune fille du lycée ne parvenait pas à gérer ses douleurs menstruelles, si sa souffrance se voyait trop publiquement, alors elle ne pouvait espérer faire partie de la bande.
Au lycée, on a une amie dont on sait qu'elle a des douleurs de règles. Elle rate souvent le sport à cause de ses règles. Et nous, on la traite pas très bien par rapport à ça. On la prend vraiment pour une chochotte. Et dans ma tête, je la dénigre. Je sais pas à quel point elle a mal. Mais en tout cas, moi, quand j'ai mal, ça m'empêche pas d'aller en cours. Donc j'estime que pour elle, ça doit être pareil. J'imagine pas quel genre de douleur elle peut avoir.
Les douleurs de la camarade de classe de Léa sont sorties du cercle de l'intime. Tout le monde savait au lycée qu'elle ratait le sport à cause de ses règles, ce qui la transformait d'office en sujet de moquerie. Pour mieux comprendre le comportement de Léa et de ses amis par rapport à cette souffrance, j'ai eu besoin de revenir 3 siècles en arrière. Dans le tome 3 de leur ouvrage « L'histoire des femmes en Occident » du 16e au 18e siècle, l'historienne Michèle Perrault et son collègue Georges Duby explique qu'au XVIIIe siècle, le corps des hommes incarne la norme, tandis que celui des femmes incarne le manquement à la norme. Le vagin est un pénis antérieur, les ovaires sont des pseudo-testicules, les lèvres des prépuces inachevés, et l'utérus fait l'objet d'une véritable obsession. On l'appelle la matrice, car il est censé conduire les désirs des femmes, déraisonnables et indomptables. Heureusement, l'antidote à cet utérus irrationnel existait, c'était le mariage. Nous voilà rassurés. Ainsi, les règles, la grossesse, les fausses couches ou encore l'accouchement occasionnent des douleurs dites « naturelles ». Les femmes doivent donc les accepter et se montrer dignes de leurs ovaires en serrant les dents, puisque la douleur fait partie intégrante de la nature féminine. Il serait absurde d'aller se plaindre à un médecin de sa propre nature. C'est ce qu'explique en juin 2021 au Media Live la médecin algologue, ou médecin de la douleur, algos en grec, ça veut dire douleur, Delphine Luillery. Puisque les règles étaient naturelles, alors les douleurs étaient naturelles, pas besoin d'en parler. Les douleurs masculines, elles, étaient souvent liées aux guerres, donc forcément de l'ordre de l'héroïsme. Mais cette vision du corps des femmes et cette manière de banaliser leurs souffrances imprègnent-elles toujours la médecine d'aujourd'hui ? Bien sûr, on ne considère plus la femme uniquement comme une machine à enfanter, mais il reste du chemin. Dans son livre « Femmes et santé, encore une affaire d'homme », la neurobiologiste Catherine Vidal décrit une étude de 2009 selon laquelle les femmes qui se rendent aux urgences pour des douleurs à la poitrine ont deux fois plus de chances de se voir prescrire des anxiolytiques que les hommes, plus souvent redirigés vers un cardiologue. Ces douleurs sont moins souvent prises au sérieux chez les femmes, comme si elles étaient moins à même que les hommes de différencier l'angoisse de la crise cardiaque. Pourquoi en est-on toujours là ? Comme je trouvais que la réponse « les médecins sont tous sexistes » était un peu trop simple, j'ai posé la question à Pascale Wiedemann-Tutsevich, ex-infirmière, aujourd'hui psychologue clinicienne à l'hôpital Saint-Joseph à Paris, au sein de l'équipe Douleur, une unité pluridisciplinaire. Pascale reçoit des patients qui souffrent de douleurs chroniques depuis parfois plus de 20 ans. Alors, notre genre conditionne-t-il notre rapport à la douleur chronique ?
Par expérience, au niveau de l'équipe douleur, nous avons un pourcentage beaucoup plus élevé de femmes, très peu d'hommes, mais alors les douleurs sont souvent assez différentes. Les femmes viennent avec une intensité douloureuse qui est déjà bien élevée.
Avec un seuil du coup plus élevé de tolérance chez la femme.
Exactement.
Si l'on attend longtemps avant de consulter, c'est parfois par peur de ne pas être prise au sérieux. Dans le cas de Léa, ce n'est pas tant la douleur que la résistance à celle-ci qui est valorisée socialement. Alors après moult concours de paires d'ovaires avec sa meilleure amie, Léa passe son bac et entre en école d'ingénieur. C'est là que les vrais ennuis commencent. La fatigue, la difficulté à sortir, à aller en cours, à voir des amis. Cette année-là, Léa a une embolie pulmonaire. Les médecins lui expliquent que sa pilule contraceptive en est peut-être la cause, car elle n'a aucun marqueur génétique qui aurait pu la prédisposer à cela. Elle décide donc d'arrêter les hormones et de chercher un nouveau moyen contraceptif.
Et donc je décide de mettre un stérilet. Un stérilet au cuivre, parce que j'ai plus le droit aux hormones. Et au moment de la pause à l'hôpital, ça fait extrêmement mal. Et le gynécologue me dit de revenir m'asseoir pour terminer la séance. Dans ma tête, je ne sais pas comment je vais faire pour me déplacer jusqu'à la chaise. Je souffre vraiment horriblement. Donc je prends sur moi, j'y vais. Et le gynécologue est comme si de rien n'était. Alors je lui pose la question, mais c'est normal que j'ai super mal ? Il me dit, non, c'est pas normal. Mais ça va pas du tout. Je dis, non, j'ai très très mal. Là, j'ai du mal à marcher. Il me dit, je vais vous donner un doliprane et puis ça devrait passer. Je reprends ma voiture pour rentrer chez moi. Et ça va pas du tout. Chaque 100 mètres passés en voiture, je me demande qu'est-ce qui m'arrive et qu'est-ce que je vais faire. Mon copain habite juste à côté de l'hôpital. Donc, au bout de 3 minutes, je passe devant chez lui et je me dis, je vais pas aller jusqu'à chez moi. Je m'arrête là, c'est pas possible, je vais pas pouvoir conduire. Enfin, j'ai trop mal, je pense, je vois plus la route. Donc, je m'arrête chez lui, je sonne, je lui dis que je viens de me faire poser le stérilet, que j'ai très mal, que je peux pas conduire jusqu'à chez moi et que j'ai besoin de me reposer. Donc, il comprend pas trop. Je vais dans le lit et je suis pliée en deux, recroquevillée. Je passe comme ça 24 heures avec la douleur qui diminue petit à petit.
La douleur du stérilet se transforme en simple gêne quotidienne que Léa choisit d'accepter d'endurer, faute de mieux. Mais elle est de plus en plus fatiguée. Aller en cours devient une épreuve, sortir avec des amis également. Elle consulte alors son généraliste qui la diagnostique en dépression parce qu'elle est tout le temps fatiguée.
À la fin de ma troisième année d'école d'ingénieur, je fais un stage à Paris. Je me fais souvent engueuler par mon maître de stage parce qu'il y a des moments où je ne suis pas concentrée, du coup, je ne retiens pas bien. Il y a des jours où je pars tôt parce que je ne me sens pas bien. Et je ne lui parle pas vraiment, en fait, de l'état dans lequel je suis. Et lui, il me dit que je ne m'implique pas assez. Et moi, je le crois. Je me rends compte que mes capacités cognitives ou ma concentration fluctuent, mais je ne fais pas du tout le lien avec mes règles. J'intègre le fait que je travaille pas assez, que je fais pas assez d'efforts.
C'est à partir de ce moment-là que la culpabilité s'intègre au vortex de fatigue et de douleur qui oppressait déjà Léa.
La première fois où ça a un impact sur ma vie sociale, c'est l'année suivante. J'ai un appartement à Nantes et j'invite un de mes anciens collègues à venir passer le week-end à Nantes. Il arrive le vendredi soir, on passe une super soirée et le lendemain, j'ai mes règles. J'ai beaucoup de mal à lui faire visiter parce que je me sens hyper fatiguée, mais je me sens super coupable parce qu'il est venu exprès. Donc je lutte toute l'après-midi, puis on rentre le soir dîner et là, j'en peux plus. Je me dis qu'il faut que j'en vienne à l'évidence que je suis épuisée. Et du coup, je lui avoue que je vais pas bien et que je vais devoir aller me coucher. Il fait le dîner tout seul, il m'appelle quand c'est prêt, on dîne ensemble. Et du coup, le soir, ben, on sort pas et puis le lendemain, on fait rien et il repart. J'ai l'impression qu'il est déçu parce que on avait prévu voilà, de faire plein de choses et de s'amuser et en fait, ben, on fait pas tout ça. Ce week-end, c'est la première fois où je suis obligée de réaliser que mes douleurs de règles ont un impact sur ma vie sociale. C'est la première fois où je dois capituler. Je pense que je suis pas mal dans le déni. J'espère bien que ça ne me réarrivera jamais. Enfin, je réalise pas du tout le problème.
À 26 ans, Léa reprend des études. Ses symptômes, toujours plus envahissants, deviennent handicapants au quotidien.
Les symptômes, à ce moment-là, ben, c'est des crampes que je sens beaucoup plus fortes. Je ne peux pas sortir de chez moi, j'ai trop mal. Des douleurs irradiantes dans le bas-ventre qui m'immobilisent au lit, quoi. J'ai le souvenir de rater des cours et que mes copines de fac me demandent pourquoi je ne suis pas venue. Et je leur mens. Je crois que je n'ai pas l'impression que c'est légitime. J'ai toujours l'impression qu'avoir ces douleurs-là, c'est normal, que toutes les personnes qui ont leurs règles ont mal et que c'est un truc qu'il faut savoir gérer.
Léa ressent ses douleurs depuis bien plus de 3 mois. Elle est donc bien atteinte de douleurs chroniques, selon la définition de l'Organisation mondiale de la santé. Elle aimerait en connaître la cause, mais aucun spécialiste ne semble s'intéresser à la question.
À chaque fois que je parle de ces symptômes-là à des spécialistes de santé... On me dit toujours que ça doit être le stress, qu'il faut que je fasse du sport, qu'il faut que je sorte, que je devrais faire de la relaxation ou de l'acupuncture. Voilà, il faut que je sois moins stressée. Et il faut que je prenne des antidépresseurs, il faut que voilà, je fasse des thérapies. Déjà, à ce moment-là, ça fait un moment que j'ai vu plusieurs psys et ben, mon état de fatigue ne change pas. Les gynécos que je vois, la fatigue, ils ne les considèrent pas du tout comme un problème gynécologique. Et les douleurs, ils ne considèrent pas ça comme un problème qu'eux vont pouvoir gérer. Ils ont vraiment l'impression que c'est lié à mon état émotionnel. Et qu'eux, ils ne peuvent rien faire pour moi.
Pour tous les soignants, l'origine des douleurs de Léa est claire. C'est dans sa tête. Rappelons-nous que l'utérus, ou pardon, la matrice, rend les femmes anxieuses et indomptables. Plus sérieusement, le stress peut-il vraiment nous faire ressentir des douleurs, voire développer des pathologies de façon psychosomatique? Entre deux giboulées d'octobre, je rends visite à Stéphanie Ahusso, psychiatre dans le 9e arrondissement de Paris. Elle s'intéresse à la manière dont nos émotions peuvent nous faire tomber malades, mais elle n'est pas fan du terme psychosomatique et elle m'explique pourquoi il est trompeur.
Pour moi, le problème du terme psychosomatique, c'est que c'est un vieux terme qui suppose qu'il y a une séparation entre les maladies qui n'auraient aucune participation psychologique et inversement, qu'il existerait des maladies psychologiques dans lesquelles il n'y aurait aucune participation physique. Et ça, c'est médicalement inexact. Il y a en plus un caractère assez péjoratif. En gros, dire que c'est une maladie psychosomatique, c'est un peu taper dans le dos de la personne en lui disant c'est rien, ça passera ou c'est pas grave, quoi. Il n'y a que 17% des médecins qui pensent à interroger les patients sur leurs antécédents d'expériences difficiles dans l'enfance, par exemple. Or, ces expériences difficiles de l'enfance, elles sont le facteur pronostique de santé le plus important à l'âge de 55 ans. c'est-à-dire de problèmes psychologiques, mais aussi de problèmes cardiovasculaires, de problèmes pulmonaires, de toutes sortes de problèmes. Pour moi, il n'y a pas de maladies psychosomatiques, ou alors elles le sont toutes.
Selon Stéphanie Ahusso, tous les troubles physiques ont donc une dimension psychologique, et tous les troubles psychologiques ont une dimension physique. Donc un phénomène physique, comme les règles, a aussi une dimension psychologique. Et à 26 ans, 2 semaines par mois, Léa est au fond de son lit, elle a mal et elle pleure.
À ce moment-là, avec mon copain, toujours vers mes 25-26 ans, on se rend compte très 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 nettement que mes périodes de grosse déprime, où je peux plus sortir du lit, où je pleure, etc., ça commence une semaine avant mes règles et ça s'arrête à la fin de mes règles. C'est clair et net. Et là, j'en parle à mes psys, enfin à ma psy du moment. Elle me dit, c'est sûrement parce que vous avez des problèmes avec les féminités, vous avez du mal à accepter votre féminité, ça doit sûrement être ça. Dans ma tête, j'ai pas de problème avec ma féminité, mais si mon psy me le dit, c'est que ça doit être vrai.
Même si cette explication sur la féminité ne la convainc pas trop, Léa a besoin de faire confiance à quelqu'un qui saura la soigner. Donc elle fait confiance à sa psy. Mais elle est tout de même persuadée que ses règles ont un impact direct sur son mental. La psychiatre Stéphanie Ahusso explique que le physique et le mental se nourrissent l'un l'autre, et que non, les émotions, ce n'est pas que dans la tête.
Une émotion, c'est d'abord des modifications internes physiologiques, des modifications du rythme du cœur, du diamètre des vaisseaux, de la tension musculaire, de la rapidité de respiration, En fait, les émotions, elles sont médiées par le système nerveux autonome, avec 2 branches, le système sympathique, le système parasympathique, qui distribue les yeux, le cœur, les poumons, les intestins, la vessie et les organes génitaux. Donc, voilà, les émotions, c'est d'abord quelque chose qui se passe dans le corps. Et puis, ensuite, une agitation cognitive, une agitation des pensées, et puis des tendances à réagir. Mais ça s'incarne dans le corps.
Donc, nos émotions se manifestent par des modifications physiologiques qui peuvent notamment induire des douleurs. Et ces douleurs sont bien réelles, même s'il est parfois difficile de les associer à des lésions observables avec la technologie médicale actuelle. Lorsque les douleurs de Léa en arrivent à l'empêcher d'aller à la fac pendant 1 semaine d'affilée, elle passe à la vitesse supérieure.
Là, je me dis, c'est un problème qui me semble assez important. C'est un problème qui semble suffisamment important pour voir un spécialiste. Je vais voir un gynéco, donc je lui explique mes symptômes et je lui demande si ce serait pas peut-être de l'endométriose. Parce que j'en ai déjà entendu parler, mais je sais pas du tout ce que c'est. Enfin, je sais que ça fait mal pendant les règles. Donc, je fais un scanner et après ça, y a rien sur le scanner, donc j'ai pas d'endométriose. Et du coup, voilà, il se passe rien de plus. Comme le gynéco me propose pas d'autres examens, moi je me dis, j'ai rien, je suis pas malade, donc c'est normal. Je suis dans une situation normale.
Enfin, presque normale. Parce que les médecins continuent de lui dire qu'elle doit faire un travail psychologique, auquel toutes ses douleurs sont finalement ramenées. Certes, comme le disait la psychiatre Stéphanie Ahusso, toute pathologie comporte une dimension psychologique. Mais tout ramener au mental et discréditer d'office toute lésion organique, ça n'aide pas. Que se passe-t-il dans la tête d'une personne souffrante qui va faire un examen et à qui le médecin annonce platement « vous n'avez rien ». Ça veut dire quoi « rien » Et pourquoi les émotions des patients sont-elles si peu prises en compte dans le monde médical ? Selon la psychologue clinicienne Pascale Wiedemann-Tutsevich, les médecins sont trop peu formés à la prise en charge de la douleur et des émotions qui y sont associées. D'après elle, ces lacunes peuvent être responsables de graves malentendus, notamment lorsqu'un médecin ne sait pas expliquer l'origine d'une douleur, ni la guérir.
Ça le met devant, face à une impuissance, je ne peux pas guérir. Je pense qu'il y a une vraie problématique là aussi, quand on ne peut pas guérir, est-ce qu'on est encore médecin ? Il n'est pas formé pour, donc il réagit comme il peut. Le malentendu, on l'entend très très bien, par exemple quand on a une radio. On va faire une radio, un IRM, et le radiologue va dire d'emblée, il n'y a rien. En fait, non, il n'y a pas rien. Tu ne vois pas sur la radio ou l'IRM quelque chose qui pourrait permettre de comprendre ce que la personne est en train de dire et d'exprimer, c'est-à-dire « je souffre et j'ai mal ». Vous voyez, ce malentendu qui se joue souvent et qui fait beaucoup de mal dans la relation patient-soignant. Et là, il y a une sorte de déflagration. Parce que là, c'est la personne elle-même qui dit « Mais alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi s'il n'y a rien ? C'est-à-dire que j'invente ? Ça veut dire que je suis folle ? Qui va croire ce que je suis en train de dire si, en plus, les examens ne me permettent pas de faire valider ça à ceux qui savent ?» C'est ça que ça provoque. Hein. Je ne dis pas que c'est fait exprès. Hein. Le médecin ne fait pas, n'a pas d'intention. Mais c'est ce que ça provoque généralement chez les personnes. Puis il y a un renfermement qui arrive jusqu'à des syndromes dépressifs qui rajoutent à la souffrance. Donc il y a un malentendu qui va se mettre en place.
Je vous propose quelques secondes de pause avant de continuer avec l'histoire de Léa. La vie de Léa continue, rythmée par sa fatigue, les cours qu'elle sèche et les sorties entre amis qu'elle annule. Mais Léa ne perd pas espoir. Elle se met en quête d'un médecin qui acceptera de continuer à chercher avec elle la cause de ses douleurs. Sur Internet, elle trouve une gynéco adorable, spécialiste de l'imagerie. Mais la conclusion est la même. Y a rien. Alors elle l'oriente vers une consoeur.
Et là, c'est encore toute une histoire. Parce que cette gynéco-là me dit que j'ai un syndrome des ovaires polykystiques. Comme ça, au premier rendez-vous, sans que j'aie fait aucun examen. Elle me dit que je dois arrêter les antidépresseurs et faire du sport pour me sentir bien. Sans, par exemple, me dire quelle est la bonne façon d'arrêter, donc hyper progressivement, avec un accompagnement. Et elle me dit que je dois manger du boudin noir. Elle pense que voilà, tous mes problèmes de fatigue sont liés au fait que j'ai pas assez de fer et que je dois congeler mes ovocytes à cause du syndrome des ovaires polykystiques. Sachant qu'elle, elle est spécialiste de la fécondation in vitro, apparemment. C'est vraiment son business. Bon, vous avez le syndrome des ovaires polykystiques, on va congeler vos ovocytes. Donc c'est un peu choquant.
Cette gynécologue prescrit à Léa des examens sanguins, qu'elle oublie de faire. Léa n'est ni tête en l'air, ni irresponsable, mais elle n'a pas vraiment confiance en cette médecin. Faute de mieux, elle retourne pourtant la voir un an plus tard. Quand la médecin s'aperçoit que Léa n'a pas fait les analyses, elle lui crie dessus, sans vergogne. À ce moment-là, Léa est psychologiquement fragile et ses réprimandes, dénuées d'empathie, lui ôtent ce qui lui restait de confiance en elle. La gynécologue finit par l'envoyer faire une biopsie, chez un spécialiste.
Un grand, grand médecin, spécialiste mondial de la biopsie. J'arrive dans le cabinet, les secrétaires médicales me disent « Ah, on vous a prévenu, il y a 45 minutes de retard. » Je dis « Non, non, on m'a pas prévenu. » Et elle s'excuse pas. Plus de 45 minutes passées, je me lève et je vais directement voir la secrétaire médicale. Et je lui dis « Excusez-moi, je voudrais savoir où ça en est pour mon rendez-vous. » Et elle m'engueule 2 minutes d'affilée. Donc, moi, j'éclate en larmes. Elle continue de m'engueuler encore plus parce que j'ai pas à pleurer. Et moi, franchement, à ce moment-là, avec tous les spécialistes que j'ai vus, plus ça, je suis vraiment perdue, quoi. À chaque fois que je veux voir un nouveau spécialiste, j'ai énormément d'espoir. Ça fait des années que j'essaye de trouver ce qui se passe. Ça fait des années que j'essaye de trouver un spécialiste qui va m'aider. Et à chaque fois, je suis déçue. Mais quand même, à chaque fois que je trouve une nouvelle piste, mes espoirs montent encore plus haut. Et au fur et à mesure, ça commence à me blaser.
Le grand Manitou de la biopsie ne trouve rien non plus. Alors après une ribambelle de psy, 2 scanners et 1 biopsie, Léa commence à se résigner. Elle se dit que puisque personne n'arrive à la soigner, c'est que le problème vient d'elle. Qu'elle doit arriver à vivre avec sa douleur, et tant pis si ça fait mal.
Voilà, j'accepte que les douleurs, c'est normal que je les ai, et en même temps, je le vis très très mal. Parce que ce que je me dis que je dois faire, c'est-à-dire bien vivre avec ces douleurs et avec cette situation, bah, j'arrive pas du tout. Ça me met dans des situations où je peux pas sortir pendant une semaine. Et moi, dans ma tête, je me dis, je suis feignante. Je suis paresseuse. J'ai pas assez de force. J'ai pas assez de courage.
Léa perd ses repères. Les émotions et la douleur ne semblent plus former qu'une même spirale malsaine. Exténuée, elle obtient tout de même son diplôme. Puis, pendant 2 ans, elle met sa recherche de diagnostic sur pause. 2 ans durant lesquels une mutation étrange se produit dans le corps et l'esprit de Léa.
Je commence vraiment à croire que ces sensations, ce ne sont pas des douleurs. Je sens que je vais pas bien, j'arrive pas à me lever. Et dans ma tête, j'arrive pas à sentir que j'ai mal. J'associe ça, à partir de ce moment-là, à de la dépression. Quand je ressens ça, qui est une douleur, en fait, je crois que je suis déprimée. Donc, je suis plus consciente que j'ai mal. Et ça me demande beaucoup de concentration sur mon corps pour me rendre compte que j'ai des douleurs à certains endroits. Il y a vraiment un fossé entre le discours qu'on me tient et ce que moi, j'ai l'impression de vivre. Du coup, je doute de ce que je ressens.
Léa réalise qu'elle n'est plus vraiment capable de bien reconnaître ses douleurs, ni même de les identifier. Pascal Wiedemann-Tutsevich confirme que le discours de ceux qui nous entourent peut avoir une influence sur notre propre ressenti douloureux.
Subir la parole de l'autre et l'intégrer et amener à ce que ça vienne modifier notre propre ressenti douloureux, oui, bah oui, ça dépend encore une fois de la personne elle-même et de son histoire, qu'est-ce que ça signifie. Ce fait qu'on lui dit, bah voilà, t'as rien, ok, j'ai rien.
Et ça, bah, si j'avais pas de problème psychologique avant, je peux pas dire, mais en tout cas, c'est sûr que ça m'en a créé. Je me culpabilisais une semaine par mois de pas être capable de supporter mes règles. Je me faisais du harcèlement envers moi-même, quoi.
La psychologue clinicienne Pascal Wiedemann-Tutsevich m'explique que l'errance médicale moyenne des patients chroniques qu'elle reçoit se compte souvent en plusieurs années. Son travail, c'est d'éviter qu'une souffrance émotionnelle ne s'ajoute à leur douleur physique. Selon ses propres mots, sa mission, c'est « mettre de l'espoir là où le désespoir amène le patient à d'autant plus souffrir ».
Ce qui est important d'entendre pour notamment les patients, c'est que c'est une expérience sensorielle, mais c'est aussi une expérience émotionnelle. Quand on a une douleur, déjà, il y a la raison pour laquelle on a la douleur, donc c'est le diagnostic, mais des fois, il n'y en a pas. Des fois, il n'y a pas de diagnostic. Et puis, il y a tout ce que je vis depuis que j'ai ces douleurs-là, et tout ce que ça vient frustrer dans ma vie, m'amener à ressentir de moi dans ma vie, toutes les relations que ça change, les relations à soi, les relations aux autres. Donc, il y a double souffrance, et qui peut venir même intensifier les ressentis douloureux.
2 ans plus tard, Léa n'est toujours pas retournée voir un gynéco et ne peut se résoudre à revoir celle qui voulait congeler ses ovocytes. Sur Internet, elle en trouve une nouvelle près de chez elle, lui expose sa situation et lui parle de son diagnostic de syndrome des ovaires polykystiques.
Et là, elle me dit « Je pense pas que vous avez un syndrome des ovaires polykystiques. » Je me dis « Mais non, c'est pas vrai. » Elle me dit, je pense que vous avez de l'endométriose. Et dans moi, je bouillonne, je me dis, mais on ne va pas retourner en arrière. J'essaie de lui dire, non, mais j'ai déjà fait 2 fois les examens, je n'ai pas d'endométriose. Elle insiste. Bon, je n'arrive pas à la convaincre, du coup, je me dis, bah, ok, ce n'est pas grave, je vais repayer les examens, puis elle verra bien que je n'ai pas ça, et puis on passera à la suite. Elle me prescrit cette fois-ci un IRM. Voilà, j'y vais.
Léa est, disons-le, bien saoulée. Encore une fois, son médecin se fiche éperdument de ce qu'elle a à dire. Mais bonne élève, elle va sagement faire son IRM.
Je me rends compte, une fois arrivée au centre d'imagerie à 1 heure de chez moi, que j'ai oublié l'ordonnance. Et là, je vais voir la secrétaire, mais dépitée, et je lui dis « J'ai rendez-vous aujourd'hui et j'ai oublié mon ordonnance, du coup j'imagine que c'est mort. » Elle me dit « Oh mince, non mais pas du tout, je vais aller voir le docteur, je vais lui demander si on peut faire son ordonnance et puis je reviens. » Elle revient et elle me dit « C'est bon, il n'y a pas de souci. Il a dit qu'il n'y avait pas de problème. On va cocher que vous l'avez amené. Il n'y a pas de problème. » Moi, je tombe des nues. Je suis là « Bon, d'accord, merci beaucoup. » Le médecin vient me chercher et contrairement à tous les autres spécialistes que j'ai vus avant, il me fait remplir un formulaire sur mes douleurs. Ça parle de douleurs de l'utérus, mais aussi de douleurs digestives, urinaires, de fatigue. Ça demande si j'ai déjà raté des cours, si j'ai déjà raté des événements sociaux, etc. Et à ce moment-là, oui, j'ai des douleurs digestives, j'ai des douleurs urinaires, j'ai tout. Et il regarde mes réponses et il me dit « Vous avez mal depuis 7 ans, vous avez répondu oui à peu près toutes les questions. Pour moi, vous avez l'endométriose. »
Le radiologue est sûr de lui. Mais Léa n'est pas née de la dernière pluie. Elle a appris à se méfier des diagnostics en carton annoncés à la va-vite. Mais bon, au moins, il est sympa. Elle lui donne le bénéfice du doute.
Je fais l'examen. Incroyable. Tout le personnel médical est extrêmement gentil. Les assistants, enfin... meilleure expérience. Et on sort. Et il me dit, bah oui, vous avez de l'endométriose profonde, vous avez une atteinte sur le nerf utérosacré. Il m'explique ce que c'est l'endométriose, il m'explique que la gravité n'est pas liée aux douleurs. En revanche, elle atteint entre autres un nerf, et c'est pour ça que j'ai toutes ces douleurs. Et là, pour moi, c'est incroyable. Je sors et je suis heureuse. J'appelle ma mère. Je lui dis, j'ai fait un examen, j'ai de l'endométriose. Elle comprend pas pourquoi je suis heureuse. Je lui dis, mais ça y est, j'ai un diagnostic. Elle me dit, ah, c'est bien. Ouais, c'est pas ce que c'est. Hein. Je lui dis, bah, je te rappellerai. Et là, pendant 24 heures ou 48 heures, j'appelle tous mes amis en leur disant, j'ai de l'endométriose. En étant super contente. Et à chaque fois, leur réaction, c'est, mais c'est horrible. Et moi, je leur dis, mais non, mais moi, je vais pas bien depuis des années. Et je sais ce que j'ai maintenant. Je vais pouvoir trouver des traitements, je vais pouvoir... Et ils mettent beaucoup de temps à comprendre. Je vais pouvoir voir des gens qui comprennent ce que j'ai, qui savent peut-être ce qu'il faut faire. Incroyable. Une euphorie.
C'est un soulagement immense. Non seulement Léa comprend d'où sortent les douleurs qu'elle traîne depuis 7 ans, mais à présent, elle est aussi capable d'en parler à ses proches. Dans son couple, où sa fatigue permanente avait créé des tensions. Au travail, où Léa a désormais une explication claire pour justifier ses arrêts maladie à répétition. Léa n'est ni fainéante, ni douillette. Elle a de l'endométriose, des atteintes sur les nerfs qui lui causent des douleurs extrêmes. Alors, après l'annonce du diagnostic tant espéré, Léa se dit qu'elle va enfin revivre, bénéficier d'un traitement, être prise au sérieux. Bref, tout va redevenir comme avant.
Et donc je retourne voir la gynéco qui m'a prescrit ces examens, avec tout l'espoir qu'on va mettre en place des solutions. J'ai rendez-vous avec elle un samedi matin. Je me réveille à 5h du mat avec des douleurs atroces. Donc au bout d'un moment, je me lève, je prends ma douche. Et je vais partir et je vois que je vais être un quart d'heure en retard au rendez-vous. J'appelle la secrétaire et là, elle me dit « Non, ça va pas être possible. » Je lui dis « Non, mais j'arrive bientôt. Ça fait hyper longtemps que j'attends. Là, on doit trouver des solutions. C'est d'ailleurs pour ça que je suis en retard, parce que je souffre d'une maladie. » Et non.
La secrétaire ne veut rien savoir. Elle insinue que Léa ment sur ses douleurs pour justifier son retard, que si Léa peut sortir de chez elle, c'est bien qu'elle n'a pas si mal que ça, et puis elle lui raccroche au nez.
Et moi, je me retrouve en pleurs dans la rue, avec des douleurs atroces. Je suis perdue. L'espoir que j'avais, qui était cette gynéco, ben, disparaît. Et donc là, c'est assez effrayant. Je ne sais plus quoi faire. Je mets beaucoup, beaucoup de temps à refaire quelque chose. C'est encore quelqu'un qui m'a culpabilisé de mon état, qui a dit que c'était pas légitime, que je mentais, que... Enfin, voilà, c'est encore une négation de ce que je vivais.
T'as repris rendez-vous avec la même gynéco, du coup ?
Ouais, mais bon, j'ai pas pris rendez-vous par téléphone et j'ai réussi à pas être en retard. Du coup, je lui montre les résultats. Et elle m'explique un peu ce que ça veut dire. Elle me dit que moi, j'ai un type d'endométriose qui est profonde, donc qui est à l'intérieur des tissus. Donc, on peut pas l'opérer. Donc, déjà, on ne peut pas m'enlever mon endométriose. Les moments où je n'aurai pas mes règles, ben, je n'aurai pas de problème. Mais les moments où j'aurai mes règles, ben, voilà, ça sera 2 semaines de douleur. C'est 1 semaine avant mes règles et 1 semaine pendant. On ne peut rien y faire. Et ça, ben, du coup, c'est une grosse déception par rapport aux espoirs immenses que j'avais quand j'ai eu mon diagnostic. Ça me remet un coup au moral.
Après cette prise de conscience, Léa se rend à l'évidence qu'elle ne peut plus se contenter de subir ses symptômes en restant au lit pendant ses règles, car ses lésions nerveuses se sont aggravées.
À force de ne pas avoir été traitée pendant aussi longtemps, donc mes lésions se sont aggravées. Et donc depuis 1 an, j'ai des douleurs neuropathiques. C'est les nerfs qui déconnent. Et donc ils envoient des sensations au cerveau qui n'existent pas physiquement. On peut sentir une brûlure, on peut sentir une décharge électrique, on peut sentir une gêne, on peut sentir une douleur, alors qu'il ne se passe rien. Aujourd'hui, quand j'ai des douleurs, je peux voir mon ventre faire des mouvements de contraction Si je touche avec ma main, je le sens. C'est très puissant. C'est des douleurs très aiguës. Aujourd'hui, ça fait 4 semaines que je suis en arrêt de travail à cause des douleurs. Enfin, depuis quelques jours, ça va mieux, donc je vais reprendre.
Dans les mois qui suivent son diagnostic, Léa renoue avec sa légitimité. Atteinte d'endométriose profonde, il est normal qu'elle soit pliée en deux pendant ses règles, tout le temps fatiguée, qu'elle demande davantage d'arrêt de travail que ses collègues. Mais comme elle va devoir vivre avec ses symptômes, autant essayer de les vivre au mieux, sans faire semblant. Elle trouve une médecin de la douleur, spécialiste de l'endométriose, via le réseau hospitalier Resendo.
C'est une des seules spécialistes sur le sujet en France. Et elle m'écoute, elle écoute tout ce que j'ai essayé, elle propose énormément de choses, on teste plein de choses. Autant médicales, dans le sens des médicaments, que des exercices de respiration, faire certains sports. Voilà, on essaye différentes molécules et on fait à tâtons. Après avoir passé plus de 7 ans à voir des spécialistes qui minimisaient mes douleurs ou qui les niaient pas mal, c'est incroyable d'avoir une médecin qui se consacre à ça et pas à l'état de mon système reproductif, qui a pour objectif que je sois bien dans ma vie et que je n'ai plus mal. Elle est très très bienveillante, empathique et à l'écoute.
La médecin de la douleur de Léa fait partie de l'équipe pluridisciplinaire douleurs chroniques de l'hôpital Saint-Joseph, comme la psychologue clinicienne Pascale Wiedemann-Tutsevich que l'on entend dans cet épisode. Et c'est là que Pascale pose la question qui fâche.
Pourquoi les équipes douleurs existent en vrai ? C'est la bonne question, ça. Si elles existent, ces équipes douleurs, ça signifie que, par ailleurs, on ne la prend pas en charge. Et donc, par ricochet, on ne prend pas en charge l'émotion de la personne qui souffre dans son corps. Un chirurgien, par exemple, lui va s'occuper de sectionner, de couper, d'enlever l'organe malade ou la chose qu'il faut enlever et qui est pathologique. Mais si cette douleur continue, c'est pas vraiment son problème. C'est pour ça qu'on est pluridisciplinaire, hein, plusieurs pratiques différentes, parce que ce ne devrait pas être uniquement la psychologie qui va tout régler, ça c'est clair. Mais c'est pas non plus que les médicaments, c'est pas seulement que le kiné non plus. Ça va être vraiment cette vision holistique et globale de la personne. On prend en charge non pas finalement la douleur, mais la personne qui souffre de douleur.
La psychologue Pascale Wiedemann-Tutsevich souligne aussi que, diagnostic ou non, la douleur n'est pas quelque chose d'objectif. Ce qui ne devrait permettre à personne de dire à quelqu'un qui souffre « tu exagères ».
Aucun examen peut nous montrer la douleur. Le ressenti douloureux n'est pas perceptible par les examens. C'est tellement subjectif. Par exemple, avec l'endométriose, il peut y avoir des micro-lésions, mais toutes petites, à un seul petit endroit de la sphère génitale, et va véritablement faire exprimer des douleurs insupportables. Et tout autant, il peut y avoir multiples lésions, avec très peu d'impact au niveau du ressenti douloureux.
Aujourd'hui, en parallèle de ses consultations avec sa médecin de la douleur, Léa est suivie par une nouvelle psychologue, avec laquelle elle recherche des pistes pour expliquer sa difficulté à reconnaître et ressentir sa propre douleur. Elle se questionne sur la possibilité qu'elle soit en train de subir un phénomène de dissociation. Je demande des précisions sur ce concept à la psychiatre Stéphanie Ahusseau.
Le concept de dissociation est un concept vraiment intéressant. Une sorte de mécanisme adaptatif quand on subit un traumatisme qui consiste à se couper de soi-même, à plus rien ressentir, à se déréaliser, à se couper de ses sensations. Donc cette dissociation se met en place quand il y a, alors ça peut être un traumatisme énorme, mais ça peut aussi être quand il y a des traumatismes répétés, un cumul, qui peuvent faire qu'à un moment, la charge traumatique est trop épaisse, trop intense, et du coup le mécanisme de dissociation se met en place. Il protège à court terme. Le problème, c'est qu'il explique le phénomène de retraumatisation. C'est-à-dire que comme on ne sent pas que c'est dangereux, que c'est douloureux, que c'est, on le sait, mais on ne le sent pas. Si je sens que ma main est sur une plaque qui brûle, ma main, je la retire sans même réfléchir. Si, en revanche, mon bras est anesthésié, j'ai ma main sur cette plaque, on discute, j'ai ma charge mentale qui me dit « bon, ce serait bien que tu relèves ta main de cette plaque, mais en même temps, je suis prise par la conversation, résultat, je la laisse dessus ». Je vais cramer ma main.
En thérapie, la psychiatre Stéphanie Ahusseau aide ses patients dissociés à retrouver leur sensation de douleur.
Moi, je sais qu'en thérapie, en fait, j'apprends aux gens à avoir mal. Je leur apprends à pleurer, je leur apprends à souffrir dans le corps. C'est un peu, je fais un métier de sadique, hein, mais de manière à ce qu'il n'y ait pas sur la douleur une émotion surajoutée. Parce que si, face à une douleur, ça nous stresse, on se dit que c'est pas normal, on en a honte, ou ça nous met en colère parce qu'on est frustré de pas y arriver, en fait, on se rajoute une émotion sur l'émotion. Le test qui peut être fait, c'est est-ce qu'on est capable de fermer les yeux et sentir cette douleur. Et rien que ce test-là, il est intéressant parce qu'on voit comme quand on est dissocié, on a beaucoup de mal à ressentir.
Avec ses patients, la psychologue clinicienne Pascale Wiedemann-Tutsevich utilise l'EVS, l'échelle verbale simple, qui quantifie la douleur subjective sur une échelle de 1 à 10. Elle explique qu'il est assez fréquent que les patients chroniques constatent une diminution de leur ressenti douloureux avec le temps. Ainsi, Léa pourrait aussi avoir plus de mal à localiser et identifier ses douleurs, car elle en souffre depuis très longtemps.
Effectivement, il y a une tendance à ce que le seuil de douleur soit augmenté. Vous, par exemple, comme moi, on va avoir un niveau supportable à 4. À 5, on a mal. Les personnes qui souffrent depuis très très longtemps, et ben à 5, elles ne vont pas ressentir forcément de la douleur.
Que ce soit parce que le personnel soignant a nié sa douleur pendant des années, ou simplement parce qu'elle en souffre depuis 7 ans, Léa a toujours du mal aujourd'hui à identifier correctement ses douleurs et à les différencier d'épisodes dépressifs. Pour la psychologue clinicienne Pascale Wiedemann-Tutsevich, une chose est claire.
Il ne faut, pas lâcher l'affaire. Voilà. Il y a toujours, on trouve. Même si ça dure très longtemps, même si pendant 7 ans on se retrouve, il y a une sorte de solidarité, il y a une sorte de communauté en fait, tout autour de l'endométriose, qui est pour moi une des choses les plus concrètes qui les aide vraiment. À dire, bah, moi ce que je fais c'est ça, mais c'est peut-être pas ça pour toi, mais c'est vers ça qu'il faut que tu vois.
Avec l'aide de pages Instagram et de blogs de patientes, de son médecin de la douleur et de sa psychologue, Léa travaille à présent à accepter sa situation, à se reconnecter à ses douleurs et aux émotions qu'elles lui occasionnent.
On travaille déjà beaucoup sur le fait de me reconnecter avec mes émotions et mes sensations. Et les étapes suivantes, ce sera de travailler sur la gestion des émotions pendant la douleur. Bah déjà, une grosse émotion négative que j'essaie de gérer, c'est le déni. Il faut que j'accepte que je suis dans cette situation où j'ai mal et que ça va être comme ça tout le temps et que j'arrête de croire que je peux ne rien faire et que ça va passer. Si on pense à ça sur les dizaines de prochaines années, on se dit que on va pas avoir la vie dont on a rêvé. C'est un peu comme un deuil qu'on doit faire sur la vie qu'on a imaginée et que tous les gens qui ont une maladie chronique doivent plus ou moins faire. Et je pense que c'est pas un travail facile.
Le parcours de Léa est malheureusement assez commun. Selon l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, l'endométriose concerne une femme sur 10. Et selon l'Institut de sondage Ipsos, la durée moyenne de l'errance diagnostique des patientes atteintes d'endométriose est de 7 ans. Exactement comme pour Léa, dont le parcours se situe donc dans la moyenne, ni plus ni moins. Alors oui, on est chacun seul dans notre corps. Oui, c'est difficile, voire impossible, de se représenter concrètement la souffrance d'autrui. Et bien que certains aient été franchement insultants, la plupart des soignants que Léa a consultés étaient probablement sincères et convaincus d'agir pour son bien en lui conseillant de manger du boudin noir, de réveiller sa féminité ou de faire un effort pour penser à autre chose. Il est tentant de croire que le simple fait de vouloir aider une personne, de vouloir la soulager, est suffisant pour y arriver. Mais la douleur n'est pas un concept objectif, d'autant plus si aucune lésion physique ne donne d'indication sur son origine. C'est pourquoi il est crucial, non seulement d'écouter, mais aussi de prendre pour argent comptant le ressenti d'une personne qui souffre. Parce qu'aucun bijou de technologie médicale ne remplacera une oreille attentive. Parce qu'on ne peut pas écouter respectueusement la douleur d'autrui si on l'interprète ou qu'on la juge. Et parce qu'on n'a pas le droit de dire à une personne « tu souffres » ou « tu ne souffres pas ». Ce ressenti lui appartient et n'appartient qu'à elle.
venez d'écouter Émotion. Cet épisode a été tourné et écrit par la journaliste Léna Coutreau. Elle vous faisait entendre le témoignage de Léa et les explications de Pascal Wiedmann-Tutzevich et Stéphanie Ahusseau. Vous pourrez retrouver toutes les références liées à leurs activités sur notre site. Maud Benakcha est la chargée de production d'Émotion, accompagnée de Agathe Le Taillandier pour cet épisode. Marine Kéméré l'a réalisé et Jean-Baptiste Aubonnet s'est occupé de la prise de son. Il était aussi au mix et c'est Nicolas Degélis qui a composé le générique d'Émotion. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, je vous recommande l'écoute de « La souffrance, que ressent-on quand quelqu'un nie notre douleur ?» un épisode d'Émotion signé Adélie Potsman-Ponté. Émotion est un podcast de Louis Média, également rendu possible grâce à Maureen Wilson, responsable éditoriale, Anaïs Dupuis, responsable de production, Mélissa Bounois, directrice des productions, et Charlotte Pudlowski, directrice éditoriale. Émotion, c'est un lundi sur deux, là où vous aimez écouter vos podcasts. Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud ou Spotify. Vous pouvez nous laisser des étoiles, des commentaires et surtout en parler autour de vous. Et si vous voulez partager vos histoires, n'hésitez pas à nous écrire à hello@louismedia.com. Nous vous lirons et nous vous répondrons. Et puis, il y a aussi tous nos autres podcasts, Travail en cours, Passage, Injustice, Fracas, Une autre histoire, Entre ou le Book Club. Bonne écoute et à bientôt.
Bonjour, c'est Zoé de Louis et j'aimerais vous parler du podcast Symptômes, le podcast d'enquête médicale de RTL dans lequel des médecins se confient sur les cas les plus marquants de leur carrière. Chaque histoire dévoile toutes les phases émotionnelles, psychiques, de doute, d'angoisse, d'urgence, d'attente, mais aussi les étapes de recherche, l'écoute de soi et du patient. Bref, si vous cherchez un podcast, écoutez Symptômes, disponible sur toutes les plateformes d'écoute. À très vite.
1-800-Flowers.com is more than your birthday, anniversary, or just because gift-giving destination. We put our hearts into everything we do to help you celebrate all life's special occasions with friends and family. From our farmers and bakers, florists and makers, everything from 1-800-Flowers is made with love every step of the way because we know that nothing is more important than delivering a smile. To learn more, visit 1-800-Flowers.com/ACAST. That's 1-800-Flowers.com/ACAST.